La première, podcast.
Utopia. Caroline Veit.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Utopia, l'émission qui s'intéresse à tout ce qui bouge positivement sur notre planète. Il y a une autre émission qui poursuit le même objectif en télé cette fois, c'est Alors on change. Et comme chaque mercredi, on travaille en collaboration avec ce magazine positif. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous pencher sur ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles ou actives ou alternatives. Il y a plusieurs façons de les nommer, ces pédagogies. Elles ont l'ambition de laisser plus de place à l'enfant, à sa personnalité, de développer son sens critique, de le faire participer activement à sa formation et d'accorder un intérêt particulier à l'apprentissage de la vie sociale. Ces pédagogies, elles portent le nom de leur fondateur et celle que nous connaissons le mieux se nomme De Croly, Freinet, Montessori ou encore Steiner. C'est essentiellement à cette dernière méthode qu'on va s'intéresser aujourd'hui, tout en ouvrant évidemment le débat aux autres pédagogies actives. Alors qu'ont-elles à apporter de plus à nos enfants? Sont-elles accessibles à tous? Chaque enfant peut-il y trouver sa place? Représentent-elles les pédagogies de demain? N'ont-elles déjà pas d'œil un petit peu déjà déteint sur les pédagogies traditionnelles? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cette émission. Alors vous, qui avez peut-être suivi l'un de ces enseignements alternatifs ou qui avez inscrit vos enfants, si vous souhaitez témoigner dans cette émission ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas, c'est possible. Via notre mail utopia@rtbf.be, notre répondeur 02 737 40 98 par SMS au 6031 code Utopia, c'est 50 centimes le message, ou encore via notre page Facebook, n'hésitez pas. Et on évoque une actu pour ouvrir cette émission. Ce mercredi 13 novembre aura lieu une journée chantier ouvert à la réserve naturelle domaniale de Genappe. L'occasion de découvrir peut-être cette réserve de 45 hectares, la plus grande du Brabant wallon. Mais cette journée, elle offre surtout la possibilité de rencontrer des jeunes du réseau Solidarcité. 50 jeunes volontaires issus de ce réseau vont en effet travailler pendant 3 jours dans la réserve, encadrés par des responsables du département nature et forêt. Et cette journée, on va en parler avec Patrick Van Lathem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Solidarcité. Alors ce réseau, c'est quoi exactement ?
Alors, je vais directement rectifier. Je suis directeur d'un service d'aide aux jeunes, une AMO qui s'appelle Colorado, et basée à Braine-l'Alleud. Et Solidarcité est un projet que nous menons au sein même de notre ASBL. Alors, Solidarcité, c'est vraiment un projet qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de vivre une année scolaire qui développe 3 axes, en fait. Donc, d'une part, un engagement citoyen sous forme de service à la collectivité, et des activités de rencontre. Ça veut dire qu'on demande à ces jeunes de pouvoir mener des activités donc de volontariat, retaper des locaux d'une association, ça peut être distribuer des repas chauds pour les plus démunis, ça peut être aussi, comme vous l'avez dit, donc gérer une réserve naturelle. Mais ils peuvent aussi mener des activités avec des publics qui n'ont d'habitude pas l'occasion de rencontrer. Ça peut être partager des activités avec des personnes handicapées, travailler avec des jeunes enfants ou bien dans des homes pour personnes âgées. Mmh. Donc tout ça, ça permet à ces jeunes en fait qu'on change le regard qu'on leur porte habituellement. Ce sont des jeunes qui peuvent vivre des difficultés et d'habitude les jeunes sont vus un petit peu du côté de leurs difficultés. Et ben là non, ces jeunes vont apporter vraiment leur dynamisme auprès des associations ou d'autres personnes. Ce qui leur permet aussi souvent de changer le regard qu'ils portent eux-mêmes sur eux-mêmes. Ouais. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on amène alors une dynamique positive.
Alors vous le dites, des jeunes en difficulté, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu quand même une mixité qu'on cherche au sein de ce groupe-là.
C'est ça la richesse de ce projet, c'est qu'effectivement, d'habitude, on met un petit peu les jeunes en difficulté d'un côté, et puis les jeunes qui vont bien, pour autant qu'il y en ait qui aillent bien comme ça, de l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment ici de vivre une expérience d'abord humaine entre jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, en décrochage scolaire, en décrochage social, mais on essaye, on y arrive souvent à avoir des jeunes qui ont envie simplement, plutôt que de partir faire une réto aux États-Unis, qui ont envie de s'investir, de dire, moi, j'ai envie de vivre une année un peu exceptionnelle avant d'entamer d'autres études, et j'ai envie de rencontrer d'autres jeunes, de faire d'autres choses, d'utiliser mes mains avant d'utiliser mon cerveau. Et donc voilà, on met tous ces jeunes ensemble pour vivre une année qui est généralement assez exceptionnelle.
C'est un engagement qui prend du temps dans une année justement.
Ah ben c'est un engagement à temps plein, quasi, pendant une année scolaire, puisque ces jeunes sont réunis 4 jours par semaine tout au long de l'année. On laisse généralement encore un jour pour des jeunes qui peuvent être demandeurs d'emploi, parce qu'ils peuvent le faire en étant demandeurs d'emploi, pour aller justement essayer de trouver un emploi et satisfaire leurs obligations.
Ah oui, d'accord, effectivement, ce n'est pas rien. Alors le réseau, il existe depuis 2010, il y a 8 antennes en Belgique. Le travail dans la réserve, c'est l'affaire de quelques jours ou c'est un travail qui va se prolonger tout au long de l'année ?
Non, c'est un petit peu un one-shot. Donc, il y a 8 équipes en tout de jeunes de Solidarité. Donc, c'est 8 équipes de 8 jeunes. Hein, il y en a 3 à Bruxelles, une à Liège, une à Otigny, une à Charleroi, une à Jodogne, une donc à Braine-l'Alleud, et bientôt encore une à Namur. Et on espère que et s'étendre encore. Et donc, ce sont tous ces jeunes qu'on va pour une fois réunir tous ensemble au sein même d'une activité collective et qui sera pendant 3 jours de travailler à cette réserve domaniale de Genappe.
Qu'est-ce qu'ils vont y faire exactement ?
Alors ils vont faire de la gestion. En fait, cette réserve, elle est assez magnifique, mais elle est assez nouvelle aussi. Donc c'est l'ancienne sucrerie de Genappe, il y a des grands bassins de décantation, mais tout ça est artificiel. Ce sont des grands bassins qui sont maintenant laissés un petit peu à l'abandon, même si c'est devenu une réserve grâce à la région Wallonne et à l'appui aussi de la province et d'une association qui s'appelle Environnement d'Île. Et en fait, si on les laisse en l'état, ben, forcément les saules vont commencer à pomper toute l'eau des bassins et tout l'attrait de cette réserve va disparaître. Et donc il faut faire vraiment des grosses activités de gestion, à savoir il faut couper du bois, il faut élargir, il faut enlever les saules, il faut enlever les plantes invasives parce qu'il y en a pas mal aussi. Donc voilà, il y a toute une série d'activités à mener. Et voilà, tous ces jeunes vont se mettre à la disposition vraiment à la fois de la DNF et de cette association pour le bien-être de cette réserve naturelle qui sera bientôt ouverte au public.
Oui, il y a du travail, hein, effectivement.
Il y a du travail.
Alors, pour être vraiment dans le concret de Solidarcité et pour des jeunes qui peut-être auraient envie de vous rejoindre, là, c'est un projet possible. Qu'est-ce qu'il y a concrètement comme autre projet que vous menez, par exemple, sur une année ?
Sur une année, ben donc j'avais commencé à parler des activités citoyennes de ces jeunes. Donc je veux dire, ça va vraiment être très éclectique parce qu'on essaye aussi que ces jeunes puissent toucher toute une série d'habilités. Hein. Il y aura du travaux de peinture, il y aura des travaux de menuiserie, il y aura qui vont se faire pour des associations diverses. Et alors il y a aussi tout un autre pan qui est un temps de formation et de sensibilisation, puisque chaque fois avant d'avoir effectivement une activité, comme voilà, on ne va pas manier une tronçonneuse la première fois sans qu'il y ait une formation avant. Donc tous ces jeunes vont bénéficier de cette formation là avant. Mais on va aussi en profiter pour faire des sensibilisations à des thématiques beaucoup plus larges qui sont le développement durable, l'éducation à la démocratie, comment fonctionne la ville, comment fonctionne la justice, comment fonctionne la police à côté, auxquelles ils ont parfois affaire. Donc on va essayer de les amener vraiment à avoir toute une réflexion et on va leur permettre aussi d'acquérir le BEPS, hein, le fameux brevet de secourisme, ainsi que le permis de conduire théorique.
Ah oui, carrément. Voilà. C'est effectivement très vaste. L'idée, c'est quoi ? C'est donc d'en faire des adultes responsables et engagés, ancrés dans le réel et le quotidien.
Tout à fait. Vraiment, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment que, voilà, ce sont des jeunes qui sont souvent en difficulté. Vous savez, quand on a une difficulté parce qu'on a un parcours de vie un peu difficile, ben, ce sont des jeunes qui vont être mis un peu à l'arrière de la classe et puis ils vont être exclus de la classe et puis voilà, l'engrenage commence. Et donc, on va essayer vraiment de renverser toute cette mécanique-là. Et parce que ces jeunes vont être accompagnés aussi de manière personnelle et individuelle au travers de toute une maturation. Donc on va leur permettre de réfléchir à ce qui s'est passé avant, de voir comment ils sont ancrés maintenant et de commencer à réaliser un projet pour la sortie de Solidarité. C'est un an un peu exceptionnel. On va vivre entre jeunes pendant 8 à 9 mois. On va préparer aussi la sortie de ce machin-là pour qu'après, Solidarcité, ce ne soit pas un vide.
Non, effectivement. Des actions citoyennes qui font sens, qui aident à mûrir, on l'a compris. En attendant, les jeunes qui voudraient vous rejoindre, il faut le faire au début de l'année ou on peut se joindre à vous n'importe quand ? Ça marche comment ?
Donc concrètement, oui, il y a encore des places. Donc certaines équipes ont commencé en septembre, d'autres commencent maintenant. Je pense qu'encore il y en a qui vont commencer en janvier. Mmh. Donc il y a encore moyen de nous contacter. Le mieux, c'est d'aller sur le site Réseau Solidarité. Donc c'est réseau-solidarité.be. Et donc là, vous verrez, il y a les antennes Solidarité. Vous pouvez choisir l'antenne qui est la plus proche de chez vous et vous contacter. Vous dites, voilà, vous êtes intéressé. À partir de ce moment-là, il y a une séance d'information qui est donnée, simplement, où on explique le projet. Il y a un petit dossier à remplir. Et puis, alors, il y a un entretien pour voir si on est bien d'accord sur le projet auquel le jeune veut participer, voir s'il y a pas de souci. Et puis, ça y est, c'est parti. L'idée, c'est vraiment d'être très accessible puisqu'il n'y a aucun frais d'inscription, il n'y a aucun prérequis, n'importe qui peut y participer. Il y a même un petit défraiement qui est offert pour que ce projet ne coûte rien. Donc il y a 10 euros par jour d'activité pour les jeunes, de manière effectivement à ce que les frais de déplacement et le sandwich du midi soient pris en charge.
D'accord. En tout cas, ce n'est pas un engagement qui se prend à la légère, on le comprend. Donc www.réseau-solidarcité.be. Si vous souhaitez plus d'infos, merci Monsieur Van Laten. Je vous souhaite un bon travail la semaine prochaine. Dans un instant, dans Utopia, on parle pédagogie alternative, juste après Gaëtan Roussel. En concert demain au Botanique à Bruxelles, vendredi à la caserne Fonck à Liège. On écoute Éolienne. Éolienne, C'était Gaëtan Roussel dans Utopia. Et comme chaque mercredi, notre émission a lieu en collaboration avec le magazine télé Alors on change, magazine diffusé sur la 2 et qui va, comme nous, dans Utopia, à la rencontre des acteurs du changement. Et Felice Gasperoni est avec nous. Bonjour Felice.
Bonjour Caroline.
Vous avez réalisé de beaux portraits dans cette émission. Vous avez fait des portraits autour d'une rentrée durable. Et parmi ces portraits, il y avait celui d'une jeune enseignante qu'on va présenter dans un instant. Et elle pratique une méthode particulière qui est la méthode Steiner.
Alors effectivement, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire une rentrée autrement ? Et on a décidé de dresser 4 portraits. Alors on s'est vite rendu compte qu'il fallait parler pédagogie. Et donc façon un peu différente d'enseigner et de s'occuper des jeunes. Et on a fait la connaissance à l'IATA d'Amandine. Et on a décidé de dresser son portrait parce qu'effectivement, la méthode Steiner, on va en parler, eh bien, elle a quand même des choses intéressantes et qui peuvent être très inspirantes.
Effectivement. Et Amandine Dupré est avec nous. Bonjour Amandine.
Bonjour.
On va peut-être se pencher sur votre portrait dans un petit instant. Vous êtes avec nous en studio et puis on avait quand même envie dans cette émission d'avoir un regard un petit peu extérieur, quelqu'un qui pratique des formations plutôt traditionnelles et qui va avoir un regard peut-être critique par rapport à ces méthodes. C'est Jacques Cornet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue?
Oui, mais je réagis assez vivement à la présentation que vous venez faire de moi.
Dites-moi.
Je n'ai pas le sentiment de faire de l'enseignement traditionnel, au contraire.
D'accord, bah excusez-moi, on m'a parlé de vous comme ça. On m'a dit que vous étiez formateur de région en sciences humaines à Liège. Et j'allais le dire, on m'a dit quand même que vous n'étiez pas un inconditionnel des pédagogies actives.
Non, je ne suis pas d'accord du tout.
D'accord, alors écoutez, c'est très bizarre. Je vous reprendrai hors antenne, hein, parce que je n'ai pas réussi à vous joindre ce matin.
Oui.
Je voulais quand même signaler le titre d'un ouvrage que vous avez publié récemment avec Noël de Smet, qui s'intitule « Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre ». Et justement, je supposais à travers ce titre-là que vous accordiez quand même sur certains points avec cette pédagogie-là. Vous resterez avec nous tout au long de l'émission, Jacques Cornet. Et je vous propose tout de suite de découvrir ce portrait d'Amandine, en tout cas un extrait qui avait été réalisé pour l'émission « Alors on change ». C'est parti.
L'accueil fait partie de la pédagogie Steiner. C'est une manière de dire à l'enfant qu'on le voit, qu'on est là pour lui. Et c'est aussi un moment dans la journée où on peut dire ce qu'on voit chez lui. Donc on peut voir si les yeux sont fouillards ou si on regarde dans les yeux. On peut voir s'ils sont en forme, s'ils sont fatigués. Et c'est une première manière de rentrer en classe en ayant déjà vu tout le monde une fois. Donc ici, c'est le cours de module. C'est-à-dire que pendant 3 à 4 semaines, ils ont le même cours avec le même enseignant tous les matins, les deux premières heures du matin. Et ça permet de rentrer en profondeur dans la matière, de se l'approprier, de jouer avec. La différence de base de l'enseignement Steiner, ce que ça propose, c'est un regard différent sur l'être humain. Et de ce regard différent découle beaucoup d'applications, comme le module, le fait de serrer la main, le fait d'avoir des cours artistiques, le fait d'avoir une relation beaucoup plus proche avec l'enfant. Mais tout cela sont des conséquences du regard vers l'enfant qui est basé sur la philosophie de Rudolf Steiner et qui allie le beau, le bien, le vrai, la tête, la main et le cœur, l'art, l'éthique et la science. Donc ces trois domaines sont tous les trois aussi importants pour le bien-être d'un être humain.
Avec quelqu'un d'autre qui nous aide à trouver les fautes et on corrige les fautes.
Face à une difficulté de l'élève, on ne va pas simplement regarder la finalité qu'il soit silencieux en classe, mais regarder la globalité du problème, éventuellement une problématique familiale, sociale, émotionnelle, et on va rentrer en relation avec l'élève pour pouvoir le toucher vraiment, ce qui n'est pas possible si on garde une distance froide avec l'enfant.
Half-sister.
On va beaucoup travailler avec le positif ici. Je ne reprends les journaux de classe que pour faire des remarques positives, alors que les journaux de classe sont souvent connus pour être un endroit où on marque les remarques négatives. Les remarques négatives, moi, je les dis à l'oral, individuellement avec l'enfant, et j'ai une discussion avec lui. Et donc, on va commencer par le positif et puis tirer un peu pour avoir de plus en plus. Et on voit la fierté sur le visage d'un enfant quand à la fin d'un cours, tout est silencieux, ils sont tous debout derrière leur chaise et je dis « Je vais prendre le journal de classe de Mathéo et de Florian pour une remarque positive ». Il y a comme une illumination sur leur visage.
C'est beaucoup plus artistique par rapport à ce que j'avais avant. On fait plus du dessin, on cherche dans son esprit les choses par rapport à ce qu'on vit et tout.
On est toujours en groupe, jamais seul.
La pédagogie implique une participation des parents parce qu'un enfant ne peut évoluer, ne peut être compris que s'il a le regard et de l'enseignant et des parents qui vivent avec lui à la maison. Régulièrement, quand on a une question par rapport à un élève, on va contacter les parents. Les parents sont impliqués dans les fêtes, dans les célébrations. Il y a plus de réunions de parents dans cette pédagogie ici que dans une pédagogie plus classique. Ce que je retire de cette démarche, c'est que je suis fière de ce que je fais. Je ressens de la gratitude autour de moi et je pense sincèrement que j'aide les enfants, j'aide à avancer. Et c'est une naïveté peut-être, mais en tout cas moi ça m'aide à être heureuse dans ce projet-là.
Ce portrait d'Amandine Dupré a été réalisé par Canal Zoom à Namur, qui est l'une des six télés locales qui participent à l'émission Alors on change, diffusée une fois par mois sur la 2. On parle pédagogie active aujourd'hui dans Utopia. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas. Utopia@rtbf.be, un SMS au 6031, c'est 50 centimes le message. Vous indiquez code Utopia et votre message. Vous pouvez aussi nous laisser un message au 02 737 40 98 ou sur notre page Facebook.
Utopia. Caroline Veit.
Et dans Utopia, aujourd'hui, je vous le disais, on parle des pédagogies actives. Avec nous, en studio, Felice Gasperoni du magazine télé Alors on change. Amandine Dupré, dont on a découvert le portrait il y a quelques instants, jeune enseignante dans une école qui applique la méthode Steiner. Et avec nous, par téléphone, Jacques Cornet, qui est sociologue et qui forme des régents. Alors je vais m'adresser à vous pour commencer, Amandine. On découvrait un petit peu la façon dont vous travaillez dans l'extrait du reportage qu'on a écouter ensemble. Comment est-ce que vous avez découvert cette méthode Steiner? Parce que vous étiez au départ diplômée en philologie romane et pas du tout destinée à ce genre d'enseignement-là.
Exactement. J'ai voulu enseigner le français langue étrangère, donc j'ai naturellement postulé à Maastricht, où je suis arrivée dans deux écoles. J'ai eu deux mi-temps et une de ces deux écoles était une école à pédagogie Steiner. Et là, j'ai découvert sur le tas. J'ai appris, je suis rentrée dans une culture, dans une manière de fonctionner, dans une manière d'enseigner des choses vivantes. Et j'ai vu la réaction des élèves, le bonheur des enfants. Et je me suis dit, ah, ça, c'est différent de ce que je connais. Là, il y a quand même quelque chose à creuser. Et j'ai creusé. Et j'ai creusé tellement que j'ai voulu faire la même chose en Wallonie.
Mmh. Ça veut dire que vous vous êtes formée comment, vous, à cette méthode-là?
Je me suis formée sur le tas en pratique. Et c'est seulement l'année passée que j'ai commencé les formations officielles où la théorie vient éclairer la pratique. Et je pense que c'est un chouette parcours.
Mmh. On parle d'épanouissement de l'enfant, effectivement, d'une participation active au cours. Et c'est vrai que ceux qu'on voit dans le reportage, effectivement, ont l'air plutôt très, très bien. Mais on peut peut-être revenir au fondement de cette pédagogie, parce qu'on parle d'anthroposophie, c'est pas toujours très clair. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'anthroposophie est effectivement la philosophie créée par Rudolf Steiner, qui veut dire la philosophie de l'être humain. Mais je tiens quand même à préciser que dans la pédagogie, on n'enseigne pas l'anthroposophie. Donc l'anthroposophie n'est qu'une source d'inspiration, est une source d'inspiration. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut utiliser le terme Waldorf à la place du terme Steiner, parce que Waldorf est la première personne qui a créé une école basée sur la philosophie de l'anthroposophie. Et c'est plus juste parce que la philosophie est beaucoup plus vaste que la pédagogie qu'on applique. Et je préfère ne pas rentrer là-dedans aujourd'hui, puisqu'on parle des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus vivantes au jour le jour avec les élèves.
Mais c'est quand même intéressant de savoir quelle est la conception de l'être humain et de l'élève dans ce genre de pédagogie.
Bien sûr, donc la conception évidemment découle de cette vision de l'être humain. Et comme je le disais dans le reportage, tête, main, cœur, le beau, le bien, le vrai, l'art, l'éthique et la science. Et tout ça sont des applications, effectivement, de la philosophie. Mais la philosophie est aussi, la liberté. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on développe la liberté chez l'enfant? Sa liberté de choix, avoir un esprit critique. La vie, comment est-ce qu'on se sent en vie? Comment est-ce qu'on se sent vivant? L'art, la nature et tout ça font aussi partie de ces choses-là. Et donc, c'est chaque fois une application.
Parce qu'on parle quand même d'un courant spirituel, de développer ce qu'il y a au-delà des sens. Ça veut dire quoi, ça, exactement?
C'est une bonne question. Effectivement, c'est une pédagogie qu'on peut dire spirituelle, parce qu'on se relie avec ce qui nous entoure. Et c'est ça qu'on entend par spirituel. Et là, il y a une barrière linguistique, parce que le mot spirituel fait parfois peur aux francophones, fait moins vite peur aux anglophones, germanophones. Et c'est pour ça que la pédagogie a beaucoup plus vite pris son essor. On n'entend pas quelque chose... abracadabrant derrière le mot la spiritualité, c'est savoir se relier. D'ailleurs, le mot religion vient de religio, de se relier à ce qui nous entoure, donc être proche de la nature, se poser des questions sur ce qu'on vit, pourquoi on vit, pourquoi on est là. Et quand on l'explique comme ça, alors j'ai toujours des interlocuteurs beaucoup plus rassurés, qui ont moins peur et qui ne se disent pas... Spiritualité, est-ce qu'on prie? Pas ça, c'est se relier à ce qu'on vit.
D'accord. Jacques Cornet, vous qui êtes avec nous par téléphone, en tant que formateur de Régent, développer ce qu'il y a au-delà des sens, être en contact avec notre entourage, ça vous dit quoi? Notre environnement, ça vous parle, ça?
Non, je ne souhaiterais pas aborder la question comme ça. Donc peut-être pour resituer en fonction de ce que vous allez dire début d'émission à propos de moi, les pédagogies actives c'est une galaxie, hein. Il n'y a pas que la pédagogie Steiner dans les pédagogies
effectivement,
actives.
Effectivement, oui, j'en parlais
donc
en début d'émission.
On peut classer les pédagogies actives en trois grandes tendances, même si bien sûr les frontières ne sont pas claires et nettes. La première grande tendance, pour prendre quelque chose de connu, c'est dans le sens de De Croly, c'est-à-dire où on va mettre l'accent sur la personnalité de l'enfant, l'épanouissement de la personnalité. Je crois que c'est assez proche de Steiner. Mmh. Donc on est du côté de l'épanouissement, du développement global de la personne de l'enfant. Et donc par rapport à la philosophie qui guide une pédagogie, toute pédagogie est guidée par une philosophie et toute pédagogie est politique. Simplement chez Steiner, comme dans d'autres pédagogies actives, on sait quelle est la philosophie qui est derrière et on sait quel objectif politique on poursuit. Dans les pédagogies traditionnelles, la plupart des gens ne le savent pas, ils l'ont oublié, et ça n'est pas conscient, mais malgré tout, il y a une politique et une philosophie derrière toute pédagogie. Donc premier grand mouvement, c'est le mouvement autour de la personne, de l'épanouissement de la personne, avec beaucoup de place aux activités d'expression, l'art, etc. Donc on vient d'entendre Amandine qui est assez bien dans ce sens-là. Le deuxième grand courant, c'est le courant qui va vouloir développer les intelligences. Alors là, on est du côté de la pédagogie des situations problèmes. On est plus du côté du groupe français d'éducation nouvelle, tout le grand courant international aussi d'éducation nouvelle, mais qui est plus du côté du constructivisme de Piaget, de Vygotsky, de gens comme ça. Et donc, on est plus centré sur le développement de l'intelligence. C'est quelque chose, par exemple, qui commence à faire son apparition dans les universités, dans des formations d'ingénieurs, des formations de médecins, d'architectes. De plus en plus, on utilise la pédagogie de la situation problème dans cette filiation-là. Et c'est bien sûr une pédagogie active. Alors, troisième grand courant, c'est un courant qui va mettre l'accent sur le groupe et sur le développement social. Et là, on est du côté des pédagogies freinées, de la pédagogie institutionnelle, etc. Et personnellement, je me rattache à ce troisième courant de pédagogie institutionnelle, qui est aussi le prolongement de la pédagogie freinée, où on travaille surtout à partir du groupe.
D'accord. Voilà. Très bien, mais comme ça on comprend un petit peu quelles sont les différentes catégories. On va évidemment rester ensemble, continuer à parler de ces pédagogies actives. On va peut-être aussi tenter de comprendre, Amandine, dans quelques instants, en quoi consiste concrètement cette pédagogie, parce qu'on sait qu'elle est différente de ce qui est enseigné dans les écoles traditionnellement. Il y a des cycles aussi qui sont très différents. Je vous rappelle, vous qui nous écoutez, qu'il y a moyen de participer à cette émission, de poser vos questions. Le plus simple, c'est utopia@rtbf.be ou notre page Facebook. On se retrouve dans une petite minute.
Utopia.
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 Utopia s'adresse aux pédagogies actives ou alternatives en ce mercredi après-midi, en particulier à la méthode Steiner. C'est une émission en collaboration, comme chaque mercredi, avec le magazine télé Alors on change. Felice Gasperoni est avec nous. Par téléphone, Jacques Cornet, formateur de Régent en sciences humaines, à Liège, sociologue également, et Amandine Dupré, qui est enseignante dans une école Steiner. J'avais envie de vous demander, Amandine, pour qu'on comprenne un petit peu concrètement comment fonctionne cet enseignement. Il y a des cycles d'apprentissage dans la méthode Steiner qui sont très différents de ceux qu'on connaît.
Oui, donc effectivement, on va regarder le développement de l'enfant. Alors le développement physique de l'enfant, tout le monde peut s'identifier, tout le monde sait qu'il y a une perte de dents, qu'il y a une croissance, qu'il y a des hormones, qu'il y a la puberté, tout le monde le voit. Mais on se rend compte qu'au-delà du développement physique, il y a aussi le développement, comme on l'a dit avant, spirituel. Et donc là, on se rend compte que les enfants ont des prises de conscience différentes au fur et à mesure de leur vie. Et donc, essayer de faire demander à un enfant de 5 ans de se mettre dans la peau de l'autre pour agir en fonction de comment tu voudrais qu'on agisse avec toi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à cet enfant-là. Et donc, de nouveau, il y a des âges qui sont propices à des prises de conscience, qui sont propices à de l'abstraction. Et c'est connaître ces âges-là et aussi nourrir les besoins de ces âges-là. Donc vers 13-14 ans, c'est un âge où on a besoin de découvrir plus. On sort tout doucement de la maison, mais pas tout à fait parce qu'on a encore besoin du cadre, on a encore besoin de rentrer chez papa et maman qui nous expliquent encore comment ça se passe. Mais si on n'est pas stimulé à sortir en même temps, tout en étant cadré en même temps, ça ne va pas. Et puis alors il faut un modèle à cet âge-là de quelqu'un qui lui a trouvé son chemin à ce niveau-là, qui a trouvé son indépendance et qui sait ce qu'il veut, ce qu'il a choisi dans la vie. Alors que quand on est beaucoup plus petit, peu importe, tant qu'on est pour un nourrisson, il faut une maman, quoi. Il faut quelqu'un qui est dans son corps physique. Donc voilà, je mélange un peu tout parce que j'ai envie de tout dire en même temps. Mais ouais. Si je résume ce que j'ai dit, c'est au fur et à mesure de la vie, les besoins physiques sont différents, mais les besoins émotionnels aussi et spirituels, et pas dans le sens bizarre, mais dans le sens abstraction, connaissance de l'autre, etc.
Et les cycles d'enseignement sont différents. Les maternelles durent plus longtemps, par exemple.
Pas toujours. C'est-à-dire qu'à la fin de la maternelle, on va regarder si l'enfant est prêt à passer en primaire. Et de nouveau, ça dépend de la capacité de l'enfant à passer à l'abstraction, puisqu'en primaire, on va commencer à compter, on va commencer à écrire. Donc, il faut être capable de se rendre compte que le A, ça peut être quelque chose écrit sur du papier. Ça, c'est de l'abstraction. Et comment est-ce qu'on va regarder ça? Eh bien, on va regarder des signes physiques qui vont témoigner aussi du développement de l'abstraction chez l'enfant.
Vous en pensez quoi, Jacques Cornet, de la modification des cycles qu'on connaît traditionnellement dans l'enseignement?
Personnellement, je tiens beaucoup à la notion de verticalité.
Ouais.
Et donc, il n'y a qu'à l'école qu'on groupe les gens en fonction de ceux qui ne savent pas. Donc une année d'études, c'est ce qui permet de regrouper les enfants qui ne savent pas encore faire ça. C'est comme si on mettait ensemble tous les bébés qui ne savent pas parler pour leur apprendre à parler. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Mm-hmm.
Et donc, je suis personnellement, et dans la pédagogie qu'on pratique, nous le faisons, pour des classes verticales, c'est-à-dire où celui qui entre, il entre dans un langage existant, il entre dans une histoire qui est commencée et qu'il va continuer. Et il entre dans une communauté de recherche. Et très rapidement, il est aspiré par cette communauté de recherche et il devient un chercheur parmi les autres chercheurs.
Mmh.
Et donc, dans notre pédagogie, on insiste beaucoup sur cette question du collectif de recherche. On fait de la classe un collectif de production de savoir, des savoirs locaux qui sont mis en patrimoine dans la classe et qui sont confrontés au savoir constitué.
Et ça veut dire qu'on peut, par exemple, avoir dans une même classe quoi, des enfants d'âge différent en fonction du moment
fait.
Où ils sont prêts.
Oui, tout à fait.
Et c'est jouable, ça?
Ah, écoutez, statistiquement, les petites écoles rurales où il y a des classes verticales par obligation alors qu'on ne l'a pas choisi, statistiquement, ces petites écoles obtiennent des meilleurs résultats par la suite.
D'accord.
Et si, par exemple,
c'est difficile d'identifier les facteurs, mais clairement, ça porte ses fruits, oui. Et alors, il y a un grand défenseur de cette pédagogie-là, qui s'appelle Bernard Collot, et donc tous ceux que ça intéresse peuvent aller voir sur son site Bernard Collot. Mais ce n'est qu'une partie des éléments de la pédagogie que nous défendons.
Mais par exemple, vous parliez de verticalité. Si on devait appliquer, en tout cas, quelques éléments de cette verticalité aux écoles traditionnelles, on va dire, est-ce que ce serait possible, à votre avis? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, comment est-ce qu'on détermine qu'un enfant est prêt, finalement?
Mais donc, c'était même prévu dans un décret, hein dans le décret mission, comme on l'appelle, il est prévu des cycles et des socles d'ailleurs. Et donc, il était prévu que l'école évolue vers des cycles. Mais la réalité, le terrain a fait de la résistance et donc les cycles ne sont pas passés. Et donc, il y avait par exemple ce qu'on appelait le cycle 5-8.
Ce qui a lieu dans certaines écoles, hein, ceci
bien
dit,
sûr,
des grands plateaux.
Oui, oui.
Ouais, ouais, effectivement.
Donc en principe, ça aurait dû être généralisé, puisque ça fait partie du décret. Même chose en maternelle, on peut très bien avoir des classes maternelles verticales, c'est-à-dire que la petite, moyenne et grande gardienne, comme on dit, maternelle, les enfants sont mélangés.
Il y a d'autres éléments.
Je suis dans le supérieur et c'est dans le supérieur que nous faisons, nous organisons une classe verticale, c'est-à-dire où les étudiants de première, de deuxième et de troisième, pas tout le temps, hein, mais ont un tiers de leur temps de formation et vertical.
Ouais, donc c'est enseignable jusqu'au bout des formations, quoi. Il n'y a pas d'âge. D'accord. On va essayer de rentrer encore.
77 ans.
Voilà, comme les bandes dessinées. On va essayer de rentrer encore dans l'aspect vraiment pratique, hein, de cet enseignement Steiner dans un petit instant. On va marquer une pause avec Gérald de Palmas dans une larme. Il sera en concert le 26 mars prochain au Cirque Royal. C'était Gérald de Palmas avec Dans une larme. Si vous nous rejoignez à l'instant dans Utopia, sachez qu'on parle aujourd'hui des pédagogies actives ou alternatives avec nous en studio, puisque cette émission se fait en collaboration avec le magazine Alors on change de Felice Gasperoni, Amandine Dupré qui est enseignante dans une école qui pratique la méthode Steiner, et puis Jacques Cornet qui est sociologue, formateur de régent en sciences humaines à Liège et qui lui est lui aussi ouvert à toutes ces pédagogies actives. Vous aviez envie de réagir, Amandine, à la notion de verticalité, parce qu'elle n'est pas du tout incompatible avec la méthode Steiner.
Voilà, pour moi, la méthode de verticalité, c'est une manière justement de sociabiliser les gens. Quand on termine l'école, on n'est pas face uniquement à des personnes de son âge, de nos connaissances. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose de très riche. Et ce n'est pas parce qu'on se rend compte des besoins de chaque enfant qu'on ne peut pas les mélanger. Et justement, on n'a jamais une classe homogène. Donc, faire travailler des enfants ensemble d'âges différents, de capacités différentes, c'est très riche. Et même entre des élèves de réto et de première, il y a parfois des échanges, des jeux qui se font ensemble. Et donc, j'avais envie de dire que ce n'était pas du tout opposé.
Jacques Cornet, vous évoquiez tout à l'heure les trois grands courants dans ces pédagogies actives. L'un plutôt de Crowley basé sur la personnalité, un autre plutôt basé sur l'intelligence comme Piaget, et puis la méthode Freinet qui elle se base plus sur le développement social. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que toutes ces méthodes ne sont pas déjà un petit peu mélangées finalement? Quand je voyais le reportage avec Amandine dans cette méthode Steiner, on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu tout ça qui entre en compte déjà. Est-ce qu'il faut vraiment les séparer? Ou est-ce qu'elles se conjuguent? Jacques Cornet.
Oui, bien sûr que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ce n'est pas des catégories étanches, évidemment. Néanmoins, il y a des accents différents, il y a des différences. Et il y a des points communs. Par exemple, lorsque tout à l'heure, Amandine insistait sur le changement de regard, sur le regard qu'on porte sur l'enfant, ça c'est certainement quelque chose qui est commun à toutes les pédagogies actives, c'est-à-dire de prendre les enfants au sérieux, pour le dire autrement. Mm-hmm. Et donc oui, il y a une série de choses qui sont communes, mais alors il y a des accents qui sont mis dans... Et qui crée des différences. Entre autres, si je prends le troisième mouvement qui met plus l'accent sur le groupe, etc., il y a aussi une volonté politique de faire profiter de ce type de pédagogie, si possible, les enfants de milieux populaires. Ouais. Freinet s'adressait aux enfants des milieux populaires, Fernand Houry, avec la pédagogie institutionnelle aussi. Et donc, par exemple, le courant qui va plus développer la personne, comme de Crowley ou Steiner, etc., s'adresse évidemment prioritairement à des enfants de classe privilégiée, hein, des enfants dont les parents ont un capital culturel élevé. Et donc là, par exemple, voilà, ça c'est un choix qui va différencier très nettement les deux courants.
Amandine, vous avez envie de réagir. Est-ce que vous avez l'impression que la méthode Steiner s'adresse à des gens qui sont socialement élevés?
Non, à la seule différence que nous avons effectivement des enfants dont les parents, une fois, se sont posé la question « où est-ce que je vais mettre mon enfant ?». Rien que ça, effectivement, ce n'est pas 100% de la population. Il y a des parents qui mettent leur enfant à la première école qui ouvre. Donc là, je suis d'accord qu'il y a une sélection. Mais c'est cette sélection-là, elle est aussi chez Freinet, puisque c'est aussi un choix des parents chez Freinet. Et ça, on peut pas éviter. Par contre, je n'ai pas l'impression que ça s'adresse à des élites, voilà. Ou en tout cas, si c'est le cas ou si c'était le cas, c'est quelque chose dont on essaie de sortir pour l'instant, puisque on voulait absolument créer une école publique. Enfin, sinon, on avait l'impression qu'on n'allait pas justement toucher ce qu'on voulait toucher. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un prérequis intellectuel.
Felice.
Et faut dire aussi que voilà, Amandine, elle enseigne à l'IATA, à Namur, ouais, qui est une école de formation professionnelle. Et donc, la question qu'on peut se poser aussi, c'est, tiens, est-ce que du coup, ces méthodes peuvent être appliquées à n'importe quel type d'enseignement? Ou est-ce que c'est plus facile de les appliquer dans certains secteurs?
Non, justement, c'est une bonne question. Ça peut être appliqué à n'importe quel enseignement, à n'importe quel âge et dans n'importe quel pays, tout simplement parce que ce n'est pas une méthode ou une technique, mais c'est une manière de penser qui va contaminer ta méthode ou ta technique. Donc, nous, ce qu'on fait, eh bien, c'est parce que ça correspond à nos élèves, à cet âge-là et à cette époque-ci et à ce pays-ci. Mais bien sûr que dans un autre pays, dans une autre époque, avec des enfants d'âge différents et des capacités différentes, l'application va être différente. Et c'est pour ça que, oui, je peux vous donner toutes les choses pratiques et techniques qu'on va faire, et je vais le faire parce que ça va donner un indice plus concret aux auditeurs qui ne connaissent pas du tout la pédagogie. Mais il faut tout remettre dans le contexte. Ce qu'on fait, c'est parce que ça correspond à maintenant, aujourd'hui, et ces élèves-là.
Oui, pour être quand même un tout petit peu dans l'aspect pratique, vous enseignez des matières aussi différemment, il y a des espèces de cycles comme ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui.
Donc, comme on est public, on a le même programme que toute la communauté française. On a le même nombre d'heures obligatoires et on a le même résultat final exigé au niveau des connaissances, puisqu'ils ont le C1D à la fin. Maintenant, on est libre dans la manière de le faire et dans l'organisation de notre horaire. Ça veut dire que pour, par exemple, le cours de français, à la place d'avoir 6 heures hebdomadaires, ils n'ont que 3 heures hebdomadaires et les 3 autres heures qui doivent être données et qui sont données sous forme de modules. C'est un peu par projet. Et là, effectivement, on rejoint la pédagogie Freinet par projet et on rentre dans une matière à fond et on va l'expérimenter, la toucher, la manipuler. Et c'est une manière d'apprendre différente de la pédagogie classique. Oui, c'est un exemple.
Ça convient à tous les enfants, ce type d'enseignement-là?
Alors, le mot « tout » est à bannir. Je peux pas le jurer. Maintenant, je me rends compte que les élèves aiment ça, oui. Mmh.
On est de retour dans Utopia. Mille excuses, on a eu un gros, gros, gros souci technique et donc on ne pourra pas malheureusement poursuivre la conversation aujourd'hui. Je remercie Jacques Cornet qui n'est plus avec nous et d'avoir participé à cette émission. Merci Felice, merci Amandine. Je pense qu'on pourrait peut-être se donner rendez-vous genre en juin pour faire un petit bilan sur cette année qui se sera déroulée, donc première année de secondaire selon cette méthode Steiner qui a ouverte à l'école IATA à Namur. Une occasion peut-être de se revoir. En tout cas, merci beaucoup. Et il y avait encore mille choses à dire. Voilà, je suis vraiment désolée. Demain, retour d'Utopia dès 15h et nous serons en duplex avec Monsieur Suter, Pierre-Éric Suter, qui a écrit cet ouvrage. Réinventer le sens de son travail. Olivier Monsens, vous aurez plus de chance que nous, j'espère.
Podcast La Première.